J'enchaîne maintenant avec l'introduction à ce que, à ce que j'ai prévu de vous partager ce matin. Vous ne serez peut-être pas surpris si je vous dis que ça tourne autour de la rentrée. Et cette rentrée, qu'elle soit au travail, à l'école, à la fac ou à l'église, elle est généralement synonyme de reprise et souvent aussi de nouveauté. En fait, c'est souvent une combinaison des deux, reprise, nouveauté, une combinaison des deux à la répartition différente pour chacun en fonction de sa situation. Mais que ce soit la routine qui reprend ou de nouvelles choses qui se mettent en place, la rentrée, c'est souvent une nouvelle étape, une sorte de page blanche qu'il va falloir remplir. Et les questions qui se posent quand on réfléchit à la rentrée sont peut-être avant tout celles du quoi et du comment. Quoi mettre sur cette page blanche? Comment y parvenir? J'aimerais ce matin réfléchir dans ces lignes-là, non pas avec l'image de la page blanche, mais avec une autre image, l'image d'un champ, C-H-A-M-P, l'image d'un champ à ensemencer. La rentrée comme un champ à ensemencer, un champ prêt à recevoir de la semence. Et donc je reformule nos deux questions ainsi. Quoi semer dans le champ de cette nouvelle année académique introduite par la rentrée? Comment semer dans ce champ-là tout au long de l'année qui commence? Et pour répondre à ces questions, nous allons nous intéresser ce matin au verbe « semer » dans la Bible. Non pas au sens propre, mais au sens figuré. En effet, à côté des nombreux textes bibliques, surtout dans l'Ancien Testament, qui parlent d'agriculture, qui parlent de semailles, qui parlent de moisson, nous trouvons dans l'Écriture des passages qui utilisent la métaphore des semailles pour enseigner des vérités spirituelles. Et ce sont ces passages qui vont être l'objet de notre attention, où nous considérerons trois domaines, trois champs à ensemencer, ou, si vous le voulez, trois types de semailles, pour ce champ qui est ouvert devant chacun de nous en cette rentrée. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais tout d'abord souligner deux principes d'ordre général, deux principes de bon sens que l'on retrouve aussi dans la Bible et qui s'appliquent à chacun des ensemencements dont nous parlerons ensuite. Le premier principe dans ce sujet des semailles est qu'on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Ce principe de bon sens, je l'ai dit, se trouve aussi dans la Bible et il est d'une certaine manière une loi de la nature. Si dans mon jardin je sème des tomates, je ne vais pas récolter des pastèques. C'est une certitude. Ça serait complètement absurde de ma part de semer des tomates et d'espérer récolter des pastèques. Il se trouve que ce qui est valable dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la nature, l'est aussi dans le domaine de la vie spirituelle. Et c'est ce que nous lisons, entre autres, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 6, versets 7 à 8, « Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. » Oui, on récolte ce qu'on sème. C'est un principe de bon sens qui se vérifie la plupart du temps et qui se vérifie aussi dans la vie spirituelle. Nous y reviendrons un peu plus tard. Bien évidemment, comme tous les principes, comme toutes les règles, il y a des exceptions. Des exceptions à la règle. Et il peut arriver pour toutes sortes de raisons que l'on ne récolte pas ce que l'on a semé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout le monde comprendra qu'il y a ce genre d'exception. Ceci dit, la plupart du temps, notre principe se vérifie. Il existe bel et bien une relation de cause à effet entre les semailles et la moisson. Ainsi, si je sème, par exemple, la zizanie autour de moi, comme ça, au hasard, la zizanie, il y a fort à parier que je ne vais pas moissonner la paix. Tout le monde comprendra ça. Même la sagesse populaire l'a compris, puisqu'elle dit que celui qui sème le vent récolte la tempête. Oui, on récolte généralement ce qu'on sème. C'est notre premier principe. Principe de bon sens que l'on retrouve dans l'Écriture. Le deuxième principe est aussi un principe de bon sens qui, comme le premier, n'est pas infaillible, mais se vérifie la plupart du temps. On récolte proportionnellement à ce qu'on sème. Et nous verrons tout à l'heure que l'apôtre Paul va appliquer ce principe en particulier au domaine de l'offrande, au domaine de la libéralité. Nous y reviendrons. Cependant, le principe de la récolte proportionnelle à la semence semée est valable dans bien des domaines, dans bien d'autres domaines. Et c'est aussi, d'une certaine manière, une loi de la nature. Si l'agriculteur, dans son champ, ne sème que 2 ou 3 poignées de maïs ou de blé, il ne faut pas qu'il s'attende à récolter une grande récolte. La moisson, le résultat final, sera proportionnel à ce qui a été investi au départ. Là aussi, bien évidemment, il y a des exceptions et il arrive qu'on sème beaucoup et qu'on récolte peu parce que catastrophe naturelle, etc. C'est pour ça que je disais, ce n'est pas un principe infaillible. Mais en règle générale, si je sème peu, je moissonne peu, et si je sème beaucoup, je moissonne fort probablement beaucoup. Et si notre principe se vérifie dans le domaine de l'agriculture, si Paul va l'appliquer au domaine de notre offrande à Dieu, ce principe se vérifie aussi dans bien d'autres domaines. Prenons l'exemple de l'amour du prochain. Si je sème un peu d'amour autour de moi dans mes relations, il y a de fortes chances que je moissonne un peu d'amour en retour. Si au contraire je sème beaucoup d'amour autour de moi, il est fort probable que je récolte beaucoup d'amour en retour. Voilà donc ces deux principes généraux qu'on va garder à l'esprit, des principes de bon sens, des principes qui sont vrais et vérifiables la plupart du temps. Nous récoltons ce que nous semons et nous récoltons proportionnellement à ce que nous avons semé. Voyons maintenant dans la perspective de cette nouvelle année, avec sa page blanche à remplir ou avec son champ à ensemencer, 3 semailles. 3 semailles que l'Écriture nous exhorte à faire. Premièrement, la Bible, c'est-à-dire Dieu, parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, la Bible nous appelle à semer l'Évangile. Nous sommes appelés à semer la semence de la parole de Dieu, à l'image de ce semeur dans la parabole qui est Jésus lui-même. Annoncer l'Évangile, parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est semer. C'est semer des graines qui germeront peut-être, qui peut-être engendreront la foi dans le cœur de celui qui les reçoit et qui amèneront à la nouvelle naissance. En effet, nous lisons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. » Sauf exception, c'est la parole du Christ qui est semée dans les cœurs, qui fait naître la foi. Ceci dit, il faut constater que dans le domaine de l'annonce de l'Évangile, les principes que nous avons mentionnés au commencement ne s'appliquent pas toujours. Par exemple, il arrive fréquemment que celui qui sème ne soit pas celui qui récolte, celui qui moissonne. Et Jésus y fait allusion dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, versets 35 à 38. « Ne dites-vous pas, vous, qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà, le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai. L'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé, et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. » Oui, il arrive que ce ne soit pas toujours celui qui sème la parole, l'Évangile qui moissonne. Mes chers amis, peu importe. Peu importe. Car dans le domaine de l'annonce de l'Évangile, ce qui importe, c'est qu'il y ait une moisson. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du fruit pour la vie éternelle. C'est cela qui compte avant tout. Alors, chers amis, semons, continuons à semer tout au long de cette année et ne nous lassons pas de semer et de semer encore la parole de l'Évangile. Annonçons quand l'opportunité se présente ce beau message de l'Évangile, la bonne nouvelle du salut qui se trouve en Jésus et en Jésus seul, la grandeur de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus. Et annonçons aussi la réalité du jugement à venir, où Dieu demandera à chaque homme, à chaque femme, des comptes pour sa vie. Oui, semons. Semons, mais ne nous trompons pas de mission. Si Dieu nous demande de semer la bonne nouvelle du salut, la croissance, elle, appartient toujours, toujours à Dieu. C'est toujours Dieu qui fait croître, et il le fait en son temps. Alors attention à notre impatience parfois. Il peut arriver parfois que nous soyons trop pressés de voir le résultat de notre labeur, de voir les fruits de nos semailles. Alors nous pouvons être tentés de brûler les étapes, tentés de forcer la croissance, tentés d'accélérer son processus. Cette impatience du jardinier se fait toujours au détriment de la jeune pousse. Imaginez un instant qu'un jardinier impatient aille chaque jour régulièrement gratter la terre là où il a semé pour voir si ça pousse. Quel sera le résultat ? Le résultat, immanquablement, c'est que le jour où les germes sortiront, en grattant la terre, il les cassera et il anéantira son travail par son impatience. Attention donc à ne pas brûler les étapes, à ne pas être impatient et surtout à ne pas nous tromper de mission. La nôtre, si nous sommes disciples du Christ, est de semer et d'arroser ce que nous avons semé. Comme Paul le dit dans sa lettre aux Corinthiens, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. » C'est Dieu qui faisait croître. Chers amis, cette année, quand nous annoncerons l'Évangile, quand nous témoignerons de notre foi, quand nous sèmerons la parole de Dieu, n'oublions pas de nous en remettre à lui pour la croissance et de le laisser faire parce que le résultat lui appartient. Ce qui nous appartient, c'est de faire fidèlement notre part. Ne soyons pas des cultivateurs impatients, des évangélistes impatients. Semons, arrosons nos semailles d'abondantes prières et laissons à Dieu le soin de faire germer et faire grandir jusqu'à porter du fruit pour la vie éternelle. Et alors nous aurons peut-être, ou alors quelqu'un d'autre, la joie, le privilège, la grâce de moissonner ce qui aura été semé pour la gloire de Dieu. Considérons maintenant, toujours dans la perspective de cette rentrée, de cette année qui s'ouvre devant nous avec son champ à ensemencer, une autre semaille que la Bible nous exhorte à faire. Il s'agit des semailles de notre offrande. Je lis ce texte dans 2 Corinthiens 9, chapitre au verset 5, des versets 5, du verset 5 pardon, à 10. Voilà ce que dit Paul. J'ai donc estimé nécessaire d'encourager les frères à me devancer chez vous pour s'occuper de la largesse que vous avez promise, afin qu'elle soit prête comme une largesse et non comme un geste d'avarice. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Que chaque homme donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice demeure pour toujours. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournira la semence, la multipliera et fera croître le produit de votre justice. De quoi est-il question ici ? De beaucoup de choses. Et en particulier d'un sujet qu'on n'aborde pas très souvent et qui n'est pas si facile que ça à aborder, il faut bien le reconnaître. Il est question ici, premièrement, si on veut remettre les choses dans leur contexte, de cette collecte qui était organisée pour les chrétiens de Jérusalem. C'est de cela dont il est question. Et puis plus largement, plus généralement, il est aussi question de notre offrande à Dieu. Donner de nos biens pour le Seigneur, donner de nos biens pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu. L'offrande à Dieu évoque pour chacun de nous toutes sortes d'images. Par exemple, je pense pour certains d'entre nous, la dîme par exemple, ou alors le sacrifice. Notre texte nous en propose une autre, celle de la semence. L'offrande comme une semence. Donner au Seigneur de nos biens, dit Paul, c'est semer. Et nous retrouvons attaché à cette semaille de l'offrande un des deux principes dont nous avons parlé au début, au verset 6. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Comme le fermier donne ses grains à la terre, puis moissonne ce qu'il a semé, notre offrande à Dieu est également une semence qui va produire une moisson. Ce que nous donnons pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur, pour l'Église, est comme une semence que Dieu va faire fructifier. Ce texte des Corinthiens au sujet de l'offrande dit beaucoup de choses que nous ne pouvons pas considérer ce matin, j'en ai retenu simplement trois. Premièrement, Dieu s'engage dans ce texte à pourvoir à notre nécessaire pour que nous puissions pourvoir à toute œuvre bonne. C'est incroyable. C'est ce que disent les versets 8 et le verset 10 que je relis. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que disposant toujours à tous égards de tout le nécessaire, vous ayez en abondance, encore en abondance, pour toute œuvre bonne. Et puis, à la fin du verset 10, il vous fournira la semence, la multipliera et fera croître le produit de votre justice. Il ne se contente pas de donner la semence, mais il la multiplie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans un langage simple et clair ? Ça veut dire que je ne m'appauvrirai jamais en donnant pour le Seigneur. Si je le fais, bien sûr, avec sagesse. Je ne m'appauvrirai jamais en donnant pour le Seigneur. Notre offrande à Dieu est un acte de foi que Dieu va honorer. C'est lui qui nous fournit la semence. C'est lui qui nous donnera le nécessaire pour que nous ayons en abondance pour toute œuvre bonne. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais souligner à partir de ce texte, c'est que Dieu prend plaisir à ce que nous donnions avec joie. Ce que Paul souligne dans ce passage, vous l'avez sans doute remarqué, ce n'est pas le contenu de ce que nous donnons, ce n'est pas là qu'il met l'accent, ce n'est pas sur le montant des dons, ce n'est pas de cela dont il parle. Ce qu'il souligne, c'est l'attitude du cœur. Au verset 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Notre offrande à Dieu, quelle qu'elle soit, doit être le fruit d'une conviction. Elle doit venir d'une résolution de notre cœur. Si nous donnons à Dieu, ça ne doit pas être par contrainte, bien évidemment, ni même pour soulager notre conscience. Dieu désire que nous donnions, mais que nous le fassions avec joie, sans tristesse ni contrainte, parce que nous l'avons résolu dans notre cœur. Voilà l'offrande à laquelle Dieu prend plaisir. Et puis, troisièmement, il est dit que Dieu fera fructifier la semence de notre offrande. Après nous avoir donné et multiplié la semence, Dieu la fera fructifier. Il fera croître le produit de notre justice, dit le texte. C'est-à-dire la semence de notre offrande, la générosité de notre cœur. Notre offrande à Dieu est un acte de foi que Dieu honore. Donner au Seigneur, c'est croire en sa providence. C'est croire que Dieu pourvoira à mes besoins. C'est croire en sa parole qui promet une moisson à celui qui donne pour le Seigneur. Chers frères et sœurs, comment allons-nous semer nos biens, notre offrande, dans le champ qui est ouvert devant nous tout au long de cette année ? Que le Seigneur nous accorde de le faire à la lumière de sa parole, à la lumière de ses promesses. Soyons dans la limite, selon nos besoins généreux pour le Seigneur et pour l'avancement du règne de Dieu. Semons parce qu'il y aura une moisson. J'aimerais maintenant considérer, pour terminer, toujours dans la perspective de la rentrée de cette année qui s'ouvre devant nous, de ce champ à ensemencer, une dernière semaille que la Bible nous exhorte à faire. Elle nous invite à semer pour l'Esprit. Semer pour l'Esprit. Je reviens à ce texte des Galates dont j'avais déjà lu une petite partie, je rajoute quelques versets, je lis les versets 7 à 10. Ne vous égarez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair, la pourriture. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la moisson de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire ce qui est bien, car nous moissonnerons en temps voulu, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. Ce passage parle de la vie spirituelle. Et il parle de la vie spirituelle avec cette image des semailles et en particulier des choix qu'il incombe à chacun de faire. Des choix pour entrer ou pas dans la vie chrétienne et des choix ou pas pour y vivre. Ce que ce passage souligne avec force au verset 8, c'est que nous sommes tous, chacun de nous, des semeurs, que nous le voulions ou pas, que nous y pensions ou pas, d'une manière ou une autre, nous semons. Soit nous semons pour la chair, c'est-à-dire pour satisfaire les désirs contraires à la volonté de Dieu, les désirs qui viennent de la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam et qui nous colle à la peau. Et si c'est le cas, alors nous récoltons la pourriture, dit le texte. On pourrait prolonger et dire la mort, et jusqu'au bout du prolongement, dire la mort éternelle. La mort éternelle si nous ne sommes pas enfants de Dieu, bien évidemment. Soit nous semons pour l'esprit, c'est-à-dire pour obéir, pour vivre conformément à la volonté de Dieu. Et nous récoltons, dit le texte, la vie éternelle. Notons bien que ce choix entre la chair et l'esprit n'est pas qu'une question de salut. C'est aussi une question de sanctification. C'est aussi une question qui concerne le chrétien dans sa vie de tous les jours. Devenir chrétien, suivre le Christ, devenir enfant de Dieu, ne nous soustrait pas à notre chair qui demeure en nous. Alors oui, par la foi, Dieu nous a placés en Christ, mais nous restons encore en Adam. Et ce, jusqu'à notre mort, ou alors jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est pourquoi même en tant que chrétien, nous devons constamment choisir entre semer pour la chair ou semer pour l'esprit. En plus de nous mettre devant les choix que nous devons faire, notre passage nous met aussi devant une affirmation très forte, au verset 7. Puisque nous lisons « On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. » Paul affirme qu'on ne se moque pas de Dieu. Semer pour la chair ou pour l'esprit, ce n'est pas la même chose du point de vue de Dieu. C'est pourquoi si je ne sème pas pour l'esprit, si je vis ma vie sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte de sa volonté, je ne récolterai pas la vie éternelle. Pourquoi ? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, c'est aussi ce qu'il moissonnera. Chers amis, il est temps de conclure. C'est la rentrée. Et comme nous venons de le voir, comme je vous l'ai proposé, c'est aussi le temps des semailles. Peut-être des semailles qui continuent, des semailles qui reprennent, des semailles qui commencent, je ne sais pas. Mais la question pour vous et pour moi est celle-ci, qu'allons-nous semer tout au long de cette année ? Et puis surtout, comment allons-nous le faire? Dieu nous propose, Dieu nous invite à semer sa parole, son évangile, pour le salut de quiconque croit. Quelle belle semaille! Dieu nous propose, nous invite à semer les bienfaits qu'il nous accorde par notre offrande. Et Dieu nous invite, nous propose et nous invite à semer pour l'Esprit, ce qui est un investissement pour l'éternité et pour la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, soyons de tels cultivateurs. Avec l'aide de Dieu, choisissons d'ensemencer le champ qui est devant nous avec ses trois semences. À n'en pas douter, ce sera pour notre bien, mais ce sera surtout pour la gloire de Dieu. Amen.